Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mars 2014 et c'est le numéro 33. Bonjour à tous, dans notre numéro 32, nous avons inauguré le nouveau mode de fonctionnement du podcast, deux émissions par mois, avec deux animateurs différents, Yannick et moi-même, Cobal. D'après les premiers commentaires sur le site, les auditeurs apprécient, et moi aussi. Yannick s'est très bien débrouillé, et puis c'est carrément reposant d'être chroniqueur. C'est un peu comme un joueur à une table de l'appel de Cthulhu. Toi tu arrives tranquille, avec ta feuille de perso pleine de touches de bouffe et ton dessin. Et de l'autre côté de la table, tu as le MJ qui a potassé l'accent de chaque PNJ, qui a découpé des indices dans du parchemin acheté chez Nature et Découverte, qui a fait son Necronomicon dans du canson trempé dans du thé, et qui n'a pas dormi depuis 3 jours, car il n'avait pas fini de recopier dans le dit ouvrage impie l'alphabet babylonien qu'il compte utiliser plus tard dans la campagne. Autant dire que je suis impatient de renouveler l'expérience. En attendant, revenons à ceux qui m'entourent, et tout d'abord à notre maître à tous, Cyril.
Bonjour.
Ce soir, il a deux mains gauches, c'est comme.
Salut à tous.
Le connaître donne une relation à plus un avec les narrativistes, c'est Callisto.
Bonsoir.
Il connaît de multiples façons de faire mourir votre personnage en musique, c'est Michael.
Hello.
Au sommaire de cette émission, nous aurons tout d'abord deux chroniques sur des jeux de mecha par Callisto, avec donc Remnant et Mecha. Puis ce sera le moment de la bulle de Cyril. Puis nous ferons une petite pause. En deuxième partie, nous aurons Koum qui nous parlera d'une série d'articles de Justin Alexander sur la conception de scénarios d'enquête. Puis Mickaël nous parlera de Inspectre.
Inspectors.
Et Callisto nous parlera de Rodvang City. Pardon. En troisième partie, Mickaël reviendra sur Odyssée et sur 2-3 autres bricoles. Qu'on verra si on a le temps de le faire. On commence tout de suite par Callisto.
Donc, comme votre envie de mecha n'a pas été totalement assouvie par Bliss Stage, je veux dire, bon, pas dans l'émission dernière, mais dans l'émission d'il y a d'un mois maintenant, je vais vous présenter deux autres alternatives de jeux avec des systèmes simples, Remnants et Mecha. J'aurais souhaité m'étendre un peu moins que d'habitude pour faire un petit peu... Oui, c'est pas gagné, voilà. Mais on va essayer de sortir un petit peu du vieux carcan, des Mechtons Z, des Robotech, etc., qui dataient d'un certain temps. Remnants, c'est 117 pages en noir et blanc par Outrider Studio, plus précisément un certain Steve Bergeron, avec des illustrations assez sympas et puis régulières qu'on trouve dans le bouquin. Voilà, je vais faire circuler ça en se modernisant, on est tous à la tablette maintenant, presque.
Wow.
Pour 9€, on a un bundle de PDF avec le livre de base et l'unique supplément en supplément qui existe. Hein, et en dur, on peut trouver ça chez Laser Games, je crois, à 14 livres. Alors, dans les grandes lignes, on a 20 pages de background, 10 sur les règles, 20 de création de perso, 35 sur les mechas, et 25 pour le MJ et tout ce qui se veut un petit peu sur l'organisation du jeu. Quoi. C'est un jeu qui se veut cinématique, donc qui ne va pas simuler dans le détail le nombre de balles qu'on va avoir calculer le temps que votre mitrailleuse va mettre pour se refroidir. Quoi. On joue dans les terres brisées, c'est un setting post-apocalyptique. Effectivement, je suis peut-être un peu fort. C'est un setting post-apocalyptique qui est dû à une guerre à grande échelle. Il y a des ruines de cités, de l'eau empoisonnée, un air complètement pourri, etc. Quoi. On n'est pas sur la Terre, on n'est pas quelques années dans le futur, c'est bien un monde différent dont l'origine en fait, peut être liée soit à la technologie, soit à la magie, un peu au choix du MJ. Les deux menant plus ou moins à la même chose. À savoir que on se retrouve avec des êtres plus ou moins humains qui survivent et qui tombent parfois sur des remnants, donc des vestiges en fait du temps passé, d'avant cette guerre qui a mené l'apocalypse. Et dans des rares cas, ce sont des Ishin. Au lieu d'être un Ishin, en fait, c'est un remnant, c'est un vestige. Et un Ishin, c'est un vestige de combat. Donc en gros, ça, ce sont des grosses armures humanoïdes qui vont de 3 à 6 mètres et qui sont donc clairement orientées armes de destruction. Chacune est unique parce qu'elle s'adapte à la volonté de son pilote et elle évolue avec le temps. Donc elle s'auto-répare. Et si jamais leur pilote meurt, parce que dans une espèce de lien pas symbiotique, mais il y a quand même vraiment un lien entre le pilote et son armure, si jamais le pilote meurt, en fait, l'armure revient à sa forme de base. C'est un peu comme un Pokémon, en fait, hein, ça retourne en format basique. Ce qui explique en fait qu'on en trouve encore des fonctionnels, alors que la plupart des restes de la technologie ne marchent plus. Donc en gros, les Nespresso ça marche pas, mais les armes de destruction massive, oui. Voilà. Il y a une limite quand même, c'est l'endurance du pilote, parce qu'en fait, la machine ne peut marcher que tant qu'il est dedans, et à l'intérieur, bah, il est à l'étroit, avec des bouts de métal qui le rentrent un peu partout dedans, il peut pas dormir dedans, il faut bien qu'il sorte à un moment donné, quoi.
Pour faire pipi.
Par exemple, encore, je me demande si c'est pas géré par la machine. Mais...
au moins pour aller prendre son espresso.
Par exemple, qui ne marche plus. Un seul Ishin, en fait, ça représente une grosse force de frappe, que son armement soit au contact, à distance, ou avec des drones. Il y a beaucoup de drones dedans, en fait, des petits drones de combat. Et donc c'est un atout indispensable pour les tribus, les cités, les caravanes qu'on va trouver dans le décor, quoi, dans cet univers-là. Il y en a environ 2000 dans le monde. Et une cité-état, donc les plus gros rassemblements humains, peut en avoir en gros maximum 10. Donc il faut compter 2 ou 4 joueurs, mais si on commence à avoir plus de joueurs, c'est donc en déséquilibre total par rapport à ce que veut l'univers, quoi. Donc c'est plutôt pour des petits groupes. Et bien évidemment, vous allez donc jouer les pilotes de ces machines, ce qu'on avait appelé des Ishinari. Voilà. C'est des individus très, très divers, en fait, on peut vraiment jouer n'importe quel type de personne. Le seul point commun qu'ils vont avoir, c'est quand même la volonté de tuer. Parce que, une fois dans les machines, c'est ça qui permet de faire le distinguo, c'est que t'as quand même un personnage orienté vers le combat, la destruction, voilà. Dans ce beau monde, on trouve des humains, des presque humains, et des trucs très lointainement humains. Hein, idem pour les animaux, dont beaucoup ont muté en monstruosité plus ou moins géante. Même un humain normal, en fait, il sort de la norme, puisque, arrivé à 40 ans, il arrête de vieillir, mais il mange 2 fois plus. Eh oui, faut...
Quoi ?
Et non, mais moi-même qui dors très peu ces jours-ci, eh ben, je mange de beaucoup plus, et ça compense.
Ah, donc je suis peut-être en train
de me transformer.
C'est une histoire de métabolisme.
C'est ça, intéressant. Ouais.
Et du coup, ça veut dire que bah, si tu veux maintenir ton statut de chef de... Enfin, si t'es chef de tribu ou quoi que ce soit, t'as assez à bouffer, si t'es un pauvre peigne cul, eh ben, t'as beau être immortel, tu meurs très rapidement, quoi, en fait. Donc tu meurs à 40 ans. De manière générale, ce même individu, il arrive à bouffer un peu n'importe quoi, boire de l'eau polluée, respirer de l'air toxique, donc ils sont quand même un petit peu plus résistants que la moyenne, quoi.
Donc en fait, le mec, si à 40 ans, il n'est pas devenu chef, il est mort, quoi.
Bah, c'est le seul espoir. Il a intérêt à rendre des bons services au chef, etc., pour s'assurer
De la nourriture, il doit y avoir une sacrée compétition, du coup.
Ouais, je pense, ouais. Et, bah, tout le fait qu'on reste dans des tribus un peu sauvages, etc., quoi, Et il y a pire encore, on a des presque humains, eux sont carrément adaptés à des modes de vie différents, genre en gros la version arctique, la version souterraine, donc c'est des espèces d'hommes taupes, etc. Quoi. C'est assez orienté donc race spécifique à un milieu naturel et extrême. Et de manière générale, les humains normaux, donc ce qu'on va jouer, sont eux répartis dans des tribus qui elles aussi sont liées bah, aux marécages, les clans des collines, etc. Donc c'est un peu lié à des zones géographiques. Et c'est le premier choix donc qu'on fait quand on crée un perso. Chaque tribu donne 2 idées de concept de perso et un bonus dans une compétence. Bon, on n'a que 3 caractères dans ce jeu, corps, mental et esprit, qui vont de moins 2 à plus 2 au démarrage. Hein, un petit équilibrage, donc en gros, je vais avoir 1 point en corps, 0 en esprit, 0 en mental, ou alors j'ai plus 2 en corps, mais j'ai un moins 1 quelque part, etc. On commence en gros avec seulement 1 point. Après on équilibre ça comme on veut. On a une petite dizaine de points à répartir dans une vingtaine de compétences. De là découlent quelques caractéristiques secondaires, hein, classiques, genre de la défense, des choses comme ça. Ça, c'est pas super super important. On a aussi des avantages qui sont des avantages et des avantages, le classique, genre je commence, j'ai du prestige, je suis connu, j'ai des trucs en rab, etc. On choisit son matos. Bon, vraiment, on est dans du standard. Quand on passe au point de matériel, je trouve ça intéressant. Il y a une notion de point de confort, c'est-à-dire que. Au lieu de parler vraiment d'argent, de troc ou quoi que ce soit, on va simplement dire, bah voilà, t'as tant de points de confort qui te permettent de vivre confortablement pendant un certain nombre de jours. Et du coup, si tu veux vivre de manière frugale en te serrant la ceinture, bah tu peux tenir plus longtemps. Et à l'inverse, si tu veux vivre de manière complètement dépravée et tout, bah tu vas casquer plus vite et tu vas utiliser ton PQ plus rapidement. Bien évidemment, vu que les héros sont des Ishinari, donc qui ont un gros rôle important vu leur puissance guerrière, normalement, ils se débrouillent pas trop mal pour récupérer des fonds, quoi. Le système, il s'appelle Rapid Fire, il est super simple. 1d6, plus une caractéristique, plus une compétence, plus des modificateurs, contre une difficulté. Donc la difficulté, c'est 4 en moyenne. Donc... terrain inconnu, rien de nouveau. Il y a des points de réserve qui servent à améliorer les résultats des jets de dés, et il y a aussi une règle des pattes, la règle d'Awesome en fait, qui fait qu'en gros ça encourage le descriptif d'action avec des prises de risque ou des trucs qui vont faire waouh, vas-y, super, etc. et qui vont te donner en fait en échange directement des bonus au jet, gagner des points de réserve, ou voire même carrément gagner de l'XP, quoi. Il y a aussi des échecs critiques, mais qui sont volontaires. C'est-à-dire, quand t'as foiré ton jet, que t'as fait un 1, etc., tu peux dire au MJ, ah là, j'ai vraiment envie de me vautrer, mais pareil, tu as une récompense aussi en échange. Bon, maintenant on a vu le pilote et le système de règles vraiment basique, on peut causer de l'ichine. La première bonne idée, c'est que pour moi, c'est qu'il y a une carac, il y a pas de. Comment dire, il y a une carac pour piloter, qui s'appelle l'éveil, et en fait, c'est la somme des trois caractéristiques du pilote. Ce qui veut dire que quel que soit le pilote qu'on s'est créé au démarrage, un érudit, une grosse brute, un enfant de 12 ans, ils sont tous à égalité pour piloter.
D'accord.
Okay. Et ça, je trouve que ça contourne un problème qu'on avait dans beaucoup de jeux de pilotes. Je pense, un dernier que j'ai en tête, c'était Cthulhu Tech, où en fait, bah, tu crées un pilote, t'es obligé d'avoir tant de points là-dedans, tant de points là-dedans.
Oui, sinon, ça conditionne pas mal la dépense de points.
Ouais. Et donc, du coup, là, en fait, il n'y a aucune restriction. Et de la même manière, en fait, il y a trois compétences de pilotage qui vont être l'assaut, le tir et le mouvement. Et là aussi, en fait, elles sont indépendantes de la fiche de base. Donc, on a des points à répartir directement dans ces compétences-là. Donc, tout le monde, tous les pilotes partent à égalité, quelle que soit leur origine et le type de personnage. Un Ishin, donc un vestige de combat, ça part aussi avec des caractéristiques standards, en vitesse, en armure, en structure, en assaut, tir, etc. On a donc un modèle de base, mais en fait, après, on peut le customiser. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, par exemple, moi, j'aimerais bien troquer de la vitesse contre de l'armure, ou à l'inverse, j'aimerais bien avoir plus de vitesse et moins d'armure. Ou de la même manière, on va pouvoir dire, moi, je préférerais qu'il ait plus d'assaut et un peu moins de tir que la version de base. Ce qui fait grosso modo, on part déjà avec 9 en mélangeant ces deux types de troc qu'on peut faire, hein, armure contre vitesse ou tir contre assaut, on part avec 9 modèles de base de méca. On a aussi des spécialités, donc en gros ton bonhomme peut être ton Ishin peut être précis, réactif, tueur de monstres ou tueur même de presque humains. Il peut être aussi un robot qui a été spécialisé, enfin plus ou moins fait pour tuer des humains ou des choses de ce style-là. Et un trait, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, le fameux catalogue des traits qu'on va avoir, le classique. Alors qu'est-ce qui fait de spécial mon robot? Est-ce qu'il a plein de missiles et compagnie, etc. Voilà.
Astéro H, corne fulgure.
Mais tout à fait. En fait, on a une bonne cinquantaine de traits. On reste sur des notions d'effet, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le détail de « alors là, tes balles sont empoisonnées, etc. » Non, c'est tu tires plus fort, tu voles, tu nages, tu creuses des trous dans le sol, t'as des communications sécurisées, voilà, on reste sur cette principe d'effet.
Tu creuses des trous dans le sol.
Bah ouais, tu veux un robot taupe qui fait des tunnels.
Ah d'accord, ok, très bien.
Et pour comme pour les caractéristiques d'assaut au tir.
Il fournit avec une pelle.
Ah bah ça peut être ça, ou ça peut être, oui, effectivement. En fait, il n'y a pas de. C'est toi qui choisis comment c'est représenté sur ton personnage. En fait, tu reprogrammes.
Il n'y a pas de forme, en fait.
Non, il n'y a pas de forme. Et de même manière que si tu as beaucoup de points en tir ou beaucoup de points en assaut, c'est toi qui choisis comment ça se matérialise. Ça peut aussi bien être une épée que des griffes, que. Voilà, ton. On va pouvoir customiser son personnage. Tu peux, en fait, le reprogrammer. Donc, le seul problème, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que tu dis, ok, bah là, j'ai lancé une reprogrammation, c'est un peu comme tu lances ta lessive. Donc, tu repasses dans 8 heures, ton robot, il a changé un petit peu de forme. Tu dis, regarde, j'ai mis des super designs et tout, j'ai mis des éclairs sur les côtés, ça pète, ouais, mais pendant 8 heures, le robot, il est bloqué. Et si t'es agressé pendant ce moment-là, bon, petit
problème. En termes de jeu, c'est les trucs que tu fais pendant la nuit ou je sais pas quoi
Ouais, t'essayes, ouais, ça peut être ça. Ouais. Mais alors, si tout le monde fait ça la nuit et que vous êtes attaqué en pleine nuit. Oh.
C'est comme le match qui a pensé ça.
Je reviens sur un point. Donc j'ai parlé des robots qui s'adaptent à la volonté du pilote. En fait, ils gagnent des points d'adaptation, le robot. Et c'est principalement en combattant, voire en se faisant exploser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une incitation à la sécurité. Un robot qui est réduit à l'état d'épave gagne des points de résistance. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'épave, il y a le pilote qui théoriquement est coincé dedans. Donc faut bien calculer son coût, genre ouais c'est bon là je pense que je vais me faire réduire en épave juste pour gagner des points, ça peut ne pas marcher, parce qu'on peut tomber sur une horde de villageois qui finalement, à coup de pioche et de machin, vont arriver à vous extraire ou à vous écraser à l'intérieur de l'épave. Mais avec un peu de chance, si vous en sortez, votre robot progresse en fait comme ça. Bien évidemment, avec les points d'adaptation, on va acheter des nouveaux traits. Un point de repère simple aussi, c'est que plus un Ishin est grand, plus il a de traits. Donc si vous voyez un robot qui est beaucoup plus grand que vous, eh ben, potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, c'est certainement qu'il est beaucoup plus fort que vous. Donc ça peut être un indice. La partie MJ, en fait, elle explore tous les différents thèmes abordables, les récompenses par exemple pour motiver les joueurs dans un setting survivaliste, le sujet technologie ou magie, puisqu'en fait on nous dit pas quelle est la solution. On dit, bah voilà, si vous jouez dans un environnement magique, les presque humains c'est plus ou moins ça. Si vous jouez dans un environnement plutôt technologique, les presque humains ça va être autre chose. On a des règles pour faire varier la réserve, la puissance, donc les éléments un peu à des. Vraiment comment doser la puissance en fait et comment doser l'opposition. C'est vraiment un petit guide tactique. Pour s'y retrouver face aux joueurs, pour que le MJ soit pas désarçonné en fait. On a aussi un bestiaire, comme on disait, avec des bestioles gérantes, hein, des artefacts et même des règles de bataille à grande échelle. Le supplément de 60 pages décrit de manière détaillée deux zones géographiques importantes du setting, la plus grosse des cités-états, des zones dangereuses et quelques petites règles optionnelles. Ma conclusion, en fait, c'est que c'est un jeu de rôle qui est vraiment complet. Il est complètement orienté ludisme. Le technique pousse à l'action, à la baston, donc décomplexé. Hein. Et ça contourne donc pour moi les problèmes de genre de jeu. Donc bah, le fait que tout le monde peut jouer des pilotes, mais différents. Le fait qu'on peut créer son méca sans vraiment sur mesure, parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, il y a une cinquantaine de choix possibles, et avec des mécas très évolutifs. Donc il n'y a pas besoin de calculatrice non plus. Et puis le fait que, comme il y a un nombre de caractéristiques techniques du méca qui sont assez limitées, bah, l'équilibrage se fait assez simplement dans les traits. J'ai pas vu de truc qui me paraît uber gros bill, etc. Quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
Ça a l'air plutôt cool. Alors, hein.
Moi j'ai juste une question. Tu disais en début de chronique que les mécas étaient un peu comme des Pokémon. Est-ce que ça veut dire que potentiellement on peut tous les attraper?
Alors en fait, dans la mesure où ton personnage a un lien unique avec un seul remnant, tu peux pas en avoir plusieurs. Quoi.
Voilà. Il peut pas le mettre dans sa banque de
dans sa pas de Pokéball,
dans sa mécaball
et le ressortir. Mais ça pourrait être une idée.
Est-ce que le contexte un peu géopolitique et tout est sympa?
Rapproche-toi de ton micro.
Ça donne envie de jouer des peu comme moi je me souviens dans Heavy Gear par exemple des jeux comme ça. Il y avait aussi des mécas et le contexte géopolitique était sympa. Même chose pour BattleTech et tout. Mm-hmm.
On a une carte du pays en fait dans le bouquin et qui est pas, enfin la contrée est pas extrêmement grande, ce qui fait que même si t'as la zone désertique, la zone arctique, etc., tu peux balader ton personnage, notamment si t'as un concept de on fait partie d'une caravane parce qu'on sait qu'on n'a pas nécessairement les moyens de survivre à un endroit donné. C'est pas vraiment le point que j'ai relu le plus cette fois-ci. J'avoue que la première fois que j'avais lu le bouquin en intégrant le background, j'avais été particulièrement emballé. Bon après je l'ai mis de côté, j'ai commencé à traduire le jeu et je l'ai sorti il y a pas si longtemps que ça, un peu pour le dépoussiérer. Bon, j'étais passé à d'autres styles de jeu, mais ma première lecture, la vraie, en complète avec background, m'avait donné vraiment des idées de ce qu'on pouvait faire avec. C'est juste que je me disais à l'époque, j'ai pas les joueurs, donc ça sert à rien que je m'oriente trop là-dessus. Quoi.
Alors, dernière question qui vient du chat. D'ailleurs, on me fait signe également que montrer les illustrations, c'est très bien.
Ouais, c'est le seul jeu que je vais chroniquer avec des belles illustrations, profitez-en.
Randall Flack demande si les vaches aussi, c'est des remnants.
Les vaches?
Oui.
Non, mais tu peux certainement faire une vache monstruosité. Donc une vache de 30 mètres de haut où tu seras content que ton remnant est la spécialité justement tueur de monstruosité.
Ah, c'est un peu
ou dueliste.
Kung Pao, tu sais.
Ouais.
Très bien.
Du coup, je continue.
Du coup, tu enchaînes tout de suite avec un autre jeu de méca.
Tout à fait.
Appelé
Fort judicieusement méca. Ouais, mais pour amener un méca, c'est une approche qui est vraiment celle des animes de méca que l'auteur, je pense, Kisperin, il a dû en bouffer pas mal. C'est la seconde édition, c'est un PDF noir et blanc de 188 pages. Moi je l'ai récupéré dans un bundle of holding. Oula, j'ai oublié d'elle.
Bundle of holding.
Avec son supplément Bollywood Mekayana. Donc je parlerai
plus. Oh
alors ça vaut dur. Mais en même temps, ce serait peut-être très intéressant.
Mais je vais parler du supplément.
Beaucoup plus.
Mais pas du tout pour ce que vous croyez. Ah, vous allez voir. Mais
j'en parle.
Attention.
7€ en PDF a priori, 30€ pour un softcover sur Drive-Thru, ce que j'ai vu. Et ça nous vient d'Heroic Journey Publishing. Mecha, c'est un système générique déjà. Donc sur la moitié de l'ouvrage, donc j'ai dit 190 pages à peu près. Donc moitié de l'ouvrage, un système générique. Et sur le reste, on a trois settings. Alors, c'est des Setting Reference Schematic, donc des SRS. On va dire setting, ça va être plus simple.
Tu as 20 minutes encore.
Ouais, donc premier setting, Steel Gunner, c'est du militaire classique dans l'espace, donc vraiment ce que nous on a eu plus l'occasion de voir certainement avec des dans les animes de mecha. Dans Special Research School, c'est une ambiance high school qui prévaut avec des mechas un petit peu transformers qui se transforment en voiture et qui servent à faire du football américain.
D'accord.
Et dans Godblind, la vie est régentée par sept dieux dépravés au sein de la cité vivante, mais des rebelles, les PJ, ont des robots qui échappent à la surveillance des dieux, et qui leur ont été fournis par le cancer de la ville, comme si son organisme lui-même se révoltait contre les dieux. Voilà, c'est juste histoire de montrer qu'on peut faire des settings différents.
D'accord.
Chaque setting propose plusieurs modèles de méca standard, parmi lesquels choisir, avec des caractères d'armement, d'armure, de technologie et de vitesse. Chaque setting propose aussi plusieurs archétypes de pilotes, avec des caractéristiques de force, d'agilité, d'intelligence et de volonté. Dans les deux cas, les caracs vont de 1 à 6. On a des valeurs de base par archétype et par méca, et plus à chaque fois un petit nombre de points qu'on peut répartir librement comme on le souhaite. Comme vous l'avez peut-être deviné, en cas de pilotage, on va cumuler. Donc on va cumuler une caractéristique du pilote et une des quatre caractéristiques du robot. L'astuce, c'est qu'en fait, comme les personnages sont les comme les bonhommes sont liés, bah, on choisit ce qu'on va additionner. C'est-à-dire que je peux aussi bien lier mon intelligence à ma technologie pour obtenir mon niveau d'ingénierie, genre ce qui se passe autour de moi, avoir obtenir en grosso modo mon initiative, que la lier à mon armement, genre je vise très bien ou je sais quand il faut frapper, et pour avoir mon niveau d'attaque. Donc ça, c'est chacun fait sa soupe et chaque pilote arrange ça comme il préfère.
Okay.
Les compétences ne sont pas primordiales dans le jeu, en fait il n'y en a que 6, combat méca, combat personnel, donc en gros en dehors du méca, le social, field ops, donc bah, l'opération sur le terrain, discrétion, athlétisme, etc., réparation et médecine. Là aussi l'orchestre, comme je le disais, ça donne une base de points et on répartit des petits bonus librement après, comme on le souhaite. En fonction du méca choisi, chaque personnage se retrouve avec 2 configurations, il y a une trentaine de configurations, chacune est associée à un descriptif, à 2 traits et à un effet technique. Donc par exemple, si j'ai la configuration éjecteur, je devrais choisir entre le trait coire ou préparer. On retrouve la notion de lien en fait entre le pilote et son robot, c'est-à-dire que si j'ai pris un éjecteur, automatiquement c'est qu'il y a une raison, et que dans mon comportement, où je suis quelqu'un qui va avoir tendance à « c'est bon, je peux m'éjecter !» Non, on reste encore un peu sur le champ de bataille. Ou alors le gars qui est préparé à se replier en cas de besoin. Quoi.
Donc chaque élément que tu choisis va orienter le... Enfin,
ça va te donner des traits aussi de caractère.
Voilà, va orienter le roleplay de ton perso.
Ouais. Et si mon robot se fait ruiner, bah, donc mon pilote pourra être éjecté à une distance sécuritaire. Si j'ai la config Counterfire, bah, je vais choisir parmi les traits dispersés ou focalisés, et mon méca pourra occasionnellement convertir des points d'attaque en points de défense. Pour annuler en fait les tirs d'ennemis, genre je fais un barrage anti-missile, un barrage de missiles qui annule tout ce que l'autre m'envoie dans la gueule. Quoi.
D'accord.
On va ensuite ajouter 2 traits à celui-ci de la configuration.
Comme Titanfall.
Hein, ouais. Un objectif pour le pilote et un pour le méca. C'est-à-dire que le méca va avoir ce qu'on appelle un protocole, même s'il n'est pas censé être conscient, lui-même ça peut être genre je dois protéger mon pilote ou au contraire je n'aime pas du tout mon pilote. Et la bonne interprétation de ces points, donc l'objectif, les traits, etc., c'est ce qui va permettre de gagner des points d'avancement en fin de partie. Quoi, donc des
D'accord, XP. Ok.
Les règles. On jette un nombre de dés qui est égal à la caractéristique. Les résultats qui sont inférieurs ou égaux à la compétence sont des succès. Simple, classique, on connaît. Les 1 sont explosifs, donc on les rejette. L'intérêt, donc je rappelle, il faut faire le plus bas possible. Mm-hmm. Si on a 5 succès, on gagne 1 point d'overdrive. Et ça va nous servir à déclencher les effets spéciaux des configurations. Par exemple, pour m'éjecter quand je vais mourir, avant de mourir, il me faut un point d'overdrive. Mais donc ça se gagne assez facilement, on a dit 5 succès, etc. Et on peut aussi les sacrifier pour obtenir des succès automatiques. Okay. Le MJ aussi a un petit pool d'overdrive qui est pour ses super PNJ méchants, etc.
C'est un pool qui est personnel à chaque joueur, ça circule pas.
Non, ça circule pas. Non. Parce qu'il y a quand même ce côté un petit peu compétitif aussi, se la péter plus que les autres. Quoi. Notamment si tu arrives à tirer plus de 8 succès. Alors là, tu as le droit à une cutscene. C'est-à-dire que là, c'est le moment où tu sors la super phrase de la mort qui tue et que tu fais une action époustouflifiante avec des missiles qui explosent partout derrière. Je me rappelle les vieux épisodes de Robotech. Je me dis là, je pense que le gars, il a fait 8 succès, il a fait une cutscene. La structure du jeu. Alors chaque joueur, en commençant par celui qui est à gauche du MJ, a le droit à une scène. Elle est sanctionnée par un jet de dés pour juger de sa réussite. Donc, une scène, un jet de dés. Quand on a fait le tour et qu'on est revenu au MJ, il est temps pour lui de guider l'histoire vers le prochain combat. Donc en gros, on fait une ronde de petites scènes tranquillou, et après, on se dit, bon bah les enfants, c'est pas tout ça, faut aller taper. Ça lui permet aussi d'essayer d'assurer la cohérence globale de l'histoire, histoire que ça s'éparpille pas trop avec les scènes des PJ. Dans chaque section, on va avoir des moments cruciaux qui vont être suggérés justement pour ça. Alors là, c'est le moment de faire la contre-attaque contre la grande invasion, etc. etc.
D'accord.
Il y a aussi des tables d'événements aléatoires qui sont suggérées, etc. D'expérience sur Ilfolk, qui utilise un peu le même principe de faire une ronde entière de joueurs et un seul pour les MJ, c'est pas toujours facile de juguler l'histoire. Mais bon, là, on est dans un cadre quand même beaucoup plus serré.
Oui.
Et il y a un intérêt technique réel à faire les scènes pour gagner des avantages justement pour le futur combat ou pour réparer en fait ce qui a été cassé dans le précédent combat. Donc on sent que les joueurs vont quand même être assez cadrés, ils vont pas trop se disperser en fait pour faire des... ils vont pas trop partir dans tous les sens en fait entre deux bastons. Comme type de scène, on a du social, de la récupération, de la réparation ou de l'action sur le terrain. En fonction de la scène, on fixe une difficulté et ça se voit récompensé par exemple par de l'overdrive pour du social. Genre, je suis allé voir ma petite copine machinette, etc., qui est aussi une pilote, dans l'escadron dont je suis concurrent. Par un point tactique, par une action de terrain, genre je suis allé espionner l'ennemi de près avec mes lunettes, avec mes jumelles. De la réparation de configuration, ou des soins de blessure. Un perso peut être présent dans plusieurs scènes, mais il n'a droit qu'à un jet de dé par ronde de scène. C'est d'ailleurs une des suggestions qui est faite par l'auteur. Si vous avez beaucoup de joueurs, mettez-en plusieurs dans une scène, comme ça ils casent un ou deux jets de dé par scène, on va plus vite et on revient à la baston. Notez aussi que cette idée de succession des scènes, elle est venue des playtesters et pas de l'auteur. L'auteur, il avait une bonne idée de son jeu, mais il disait, mais je voyais vraiment pas comment il jouait, en fait, comment ça allait s'organiser. Et, parce que si le combat, c'est un incontournable dans les animes de mecha, tout le reste de l'épisode, en fait, ça tourne autour des raisons de ce combat. Oui. Soit c'est l'aboutissement, en fait, de quelque chose qui a été posé dans les scènes, soit au contraire, ça va relancer des nouvelles scènes de drama, quoi. Tension nerveuse. Bon, on va justement parler du combat de mecha. Il se base sur un principe que j'ai trouvé assez astucieux, d'une représentation abstraite des distances, hein, sous la forme d'une cible, un bullseye en fait. Donc la cible classique avec un centre, deux cercles concentriques autour, et tout divisé en quatre cadrans. Et ben en fait, ça va être la représentation de chaque champ de bataille. Okay. S'il y a deux forces ennemies, elles partent tout simplement dans des cadrans opposés de la cible, sur le bord extérieur. S'il y a une attaque surprise, il y en a un qui va pouvoir se positionner où il veut, directement sur la cible. On ajoute aussi des bâtiments et on place aléatoirement généralement un point stratégique, genre le point à essayer de récupérer pour gagner la bataille. Ça peut être aussi l'annihilation complète de l'ennemi ou sa fuite qui peut être générateur de la réussite.
Ou le capture the flag.
le point stratégique, c'est ça en fait.
Ouais, c'est ça. Hein.
Et ça peut être un pont, un sommet, l'accès à une source d'énergie, peu importe quoi. Ou simplement dire, bah non, voilà, quand on arrive à ce moment-là, on domine, point.
Une caisse remplie de données stratégiques.
Tout à fait. Et les points tactiques qui ont été gagnés dans la scène d'action précédente vont par exemple permettre au mecha de se déplacer avant le début du combat. Genre je me rapproche directement de l'objectif grâce à ce que j'ai vu tout à l'heure avec mes jumelles.
Okay.
Pour la suite du combat, c'est du classique total, hein, on a une action complète quand on arrive à son tour d'initiative, composée d'un mouvement et d'une attaque. Les succès obtenus sur un jet de déplacement sont dépensés pour évoluer sur la carte, avec des petites restrictions qui font qu'on peut pas la traverser en courant, de part en part en un seul tour. On peut aussi choisir de sacrifier ses mouvements pour faire plutôt du style je me planque, j'avance accroupi ou je me cache un petit peu derrière le décor pour gagner des points de défense.
Ok.
Un mecha, il a autant d'armes qu'il a de points dans la caractéristique d'armement, et pour chacune, en fait, le joueur choisit la portée optimale des armes, de 0 à 6. Et cette portée, on va l'utiliser de la même manière que les points de déplacement, pour savoir si, moi j'ai une arme qui tire à une portée de 6, mes machins est une distance de 4, donc du coup tu fais un jet, mais handicapé de 2 dés, puisque j'ai 2 dés d'écart. Donc on a intérêt à panacher ses armes, d'autant plus que, petite règle de refroidissement, on va pas pouvoir utiliser la même arme tous les tours. Donc, si on dit, ouais, moi je reste là, je suis un sniper, j'ai mon arme qui tire à une portée de 6, ouais, mais dès le tour suivant, tu vas devoir te débrouiller pour bouger, évoluer sur la carte, ouais, te replacer pour rester à une distance de 6. Donc, ça incite pas à rester statique du tout, quoi.
Il y a un côté tactique qui est très poussé,
ouais,
quand même.
Je trouve mais en même temps, ouais, relativement simple, parce que la carte est pas énorme, chaque déplacement tire, tout se calcule de la même manière, les configurations vont permettre de... Beaucoup de configurations vont permettre de dire, moi je sacrifie de la défense pour gagner de l'attaque ou pour gagner du mouvement, etc. Donc, on fait sa petite soupe pour bidouiller vraiment son méca, quoi.
D'accord.
Les dégâts sont tout connement, comme c'est de l'ultra classique, hein, c'est attaque moins défense, etc. Donc les dégâts sont simplement égaux au succès d'attaque moins les succès de défense. Et ils sont répertoriés sur un tracker. Donc on commence un tracker de phase stable. À chaque fois que je vais prendre un dégât dessus, je jette un dé de 6. Si je fais un résultat inférieur au nombre de dégâts que j'ai déjà pris, mon robot, il est hors de combat. Donc je prends un premier dégât, je fais un 1 sur un jet de dé, mon robot est hors de combat. Sauf que, bien évidemment, je peux choisir de revenir dans l'action. Mais à ce moment-là, mon robot va commencer à être endommagé.
Faut pas que t'aies de bol au dé, quoi.
Si t'arrives dès le premier coup, voilà. Par contre, à un moment donné, si t'accumules, tu sais bien que
3-4 points de dégâts, ça commence à être
compliqué. Si au sixième, tu sais que cette fois-là, normalement, ton robot il est out, sauf si tu choisis de le remettre sur le terrain. Et là, tu peux, mais tu perds. Il est endommagé, en gros, et il perd accès à une de ses configurations, qu'il faudra donc réparer à un moment donné. Les fameuses scènes, finalement, au lieu d'aller draguer machinette, je vais peut-être plutôt réparer mon mecha pour la prochaine baston.
Okay.
Donc il y a un choix là aussi tactique de se dire, ça vaut la peine de rester dans le combat, mais je risque à long terme d'endommager mon robot, de perdre en puissance, en capacité sur le long terme, quoi.
Parce que dans le futur, machinette est devenu un prénom féminin courant.
Tout à fait. Et en plus, remarque, si machinette est mécanicienne, comme son nom le suggérerait, là il y a peut-être une piste, quoi. Il y a peut-être quelque chose à chercher. Genre, je vais draguer machinette pour qu'elle aille réparer mon robot pendant sa scène. Comme ça, je gagne des points d'overdrive et elle répare mon robot. Très bonne idée. Bon, après, on peut encore choisir comme ça. Les trackers, on peut aller jusqu'à 4 niveaux de tracker. Donc, en gros, quand j'arrive sur le 3ème niveau, j'ai perdu mes deux configurations. Donc, mon robot commence à être un peu poivre. Et si jamais je vais dans la 4ème, bon, bah là, j'ai clairement signifié au MJ que j'étais prêt à mourir. Donc, comme je disais, ça peut paraître confortable au démarrage, mais tous ces dégâts qu'on se prend dans la gueule, va falloir les réparer. Le combat, je trouve qu'il peut difficilement être monotone, parce que sur cette base vient de se greffer, bah, y a du recul. Quand tu te prends un coup dans la gueule, pouf, tu recules.
Oui.
Du temps de refroidissement, ce qu'on a vu, je peux pas tirer deux fois de suite avec la même arme. On peut aller s'amuser à prendre un tir destiné à un mecha qui est à côté. On peut sortir directement en tant que pilote sur le champ de bataille pour essayer d'aller piquer un mecha quand notre propre mecha s'est fait défoncer. D'accord. Les bâtiments peuvent avoir aussi des caracs, des configurations. Il y a des règles de terrain. Et il y a une opposition qui est différente en fonction qu'on affronte des MOOC, des soldats ou des AS. Donc des AS, en gros, des PNJ du même niveau que les PJ. Quoi.
Des MOOC ?
Bah des mouais, des armées, des sbires,
des
robots, ceux qui explosent en fait.
Je te rappelle que c'était le même terme, par exemple, je crois que c'est Feng Shui le premier où il parlait des mouques, je crois.
Ah, je me souvenais plus du tout.
Bah, c'est quand t'as une masse, les anonymes quoi. Un combat humain, c'est tout pareil, mais en plus simple avec moins de dés.
Stormtrooper,
c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est pareil, mais en plus simple puisque tu rajoutes pas les caracs de ton robot, donc déjà tu te la pètes beaucoup moins sur tes jets. Et en plus, tu n'as qu'un tracker de dégâts avant d'aller à l'hôpital. Après, tu te réveilles à l'hosto avec ton bandage sur la tête, voilà. Et Machinette qui vient t'apporter des oranges. Dans le reste de l'ouvrage, on trouve plein de conseils pour créer et animer les settings, les campagnes, les histoires, les rencontres et les bastons. Et après, on a donc le détail des settings, les SRS. En résumé, je pense que c'est un jeu qui a un potentiel réel par son approche narrativiste qui laisse au joueur la possibilité d'orienter l'histoire sans pour autant la contrôler. Parce que comme on a vu, hein, il est quand même guidé, il y a 4 types de scènes différents. Bon, on ne va pas trop sortir des sentiers battus. Par son système simple qui laisse de nombreuses options tactiques avec le bullseye notamment et tous les mix possibles de configuration, t'en as que 2 sur 30 donc t'as de quoi changer. Bien évidemment, on peut aussi dire oh, mon robot est en réparation ou je vais en prendre un autre, etc. et donc changer de config entre deux bastons.
D'accord.
Et le tout, bien évidemment, pour des gens qui veulent émuler un anime de mecha, hein, parce qu'on reste vraiment dans ce
sens. Oui, là de toute façon, a priori, qu'on parle là-dedans.
Ouais, non, mais là, c'est vraiment orienté.
Faut vraiment être extrêmement perdu pour acheter ça.
D'ailleurs, dans les illustrations que Mickaël a dû montrer, étaient sûrement des pilotes de mecha ou des choses de ce style-là. C'est un peu. Voilà,
j'ai montré aussi des mechas.
Coquin.
Et j'ai pas montré le bullseye pour l'instant, je préfère montrer les illustrations.
Ok. Dans le supplément Mechayana, on nous propose de croiser mecha. Et Bollywood.
Oh.
Alors, j'en parle en fait uniquement à cause des règles de relation. Et pas de.
Est-ce que ça veut dire que le reste est pas bon ou...
Alors, j'en parle en fait, mais c'est.
Est-ce qu'il y a des séquences chantées?
Oui, tout à fait.
Oh,
mais,
génial!
Mais oui, c'est ça en fait. Mais ça, pour moi, ça reste un peu du gimmick, on va dire. Quoi.
Et tu nous fais une petite démonstration?
Oui, comme je suis caché par l'écran, je pourrais vous chanter One Pound Fish, mais ça n'est pas du Bollywood.
Ah merde!
Donc dans le supplément Mechayana, on a en gros 20 pages sur les bases de qu'est-ce que c'est que le Bollywood, etc., comment ça fonctionne, des archétypes qui au lieu d'être des archétypes de personnages deviennent des archétypes d'acteurs, puisqu'en fait dans le Bollywood, l'acteur il jouera toujours le même rôle dans tous les films différents.
Ouais.
Donc on a le cascadeur, on a le jeune premier, etc. quoi. Et on a aussi 3 nouveaux settings qui sont décrits sur 15 pages. Alors, le petit gimmick dont on parlait, c'est le Star Power, qui permet de mesurer en fait, le succès des danses et des chants de vos personnages, et donc du film Bollywood, c'est-à-dire qu'à la fin, à la fin de la séance, en fait, faut noter un peu le film. Et ça marche aussi quand vous êtes dans vos mechas. Donc, effectivement, tu fais des danses Bollywood.
C'est génial. Avec
tes robots.
Sur le champ de bataille.
Mais tout à fait. Avec des bonus de dés si t'as la musique d'ambiance, encore plus de bonus si tu fais ça en karaoké. Et tu peux justement avoir les mooks, justement, qui s'ajoutent derrière et qui dansent en fond. Comme dans chaque film de Bollywood où les gens du village ou les gens de la rue qui n'ont que ça à foutre et qui n'ont pas de métro à attraper s'arrêtent pour danser gaiement.
Tout à fait.
Parfaitement.
Mais en fait, ça s'arrête un petit peu à là. C'est vraiment un petit
gimmick. Bon,
c'est le petit plus, quoi. C'est le petit plus couleur locale. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les règles de relation qu'ils ont glissé là-dedans. Il y a de la relationship map. Donc, même si vous êtes frileux sur les terrains, genre, oh, la relationship map me fait très peur, vous pouvez noter ça tout bêtement. Hein, la version la plus simple est possible. Chaque PJ est mentionné sur une feuille.
Okay.
Chaque joueur rajoute un PNJ et il lit son PJ.
Oui.
Tout va bien. Et après, deuxième ronde, chaque PJ choisit de nouveau de se lier soit à un PNJ, soit à un autre PJ. Donc en gros, okay. Voilà, genre, machin est mon rival de l'unité adverse, etc. Ou dans du village voisin qui m'a volé un bœuf, salaud. Et Machinette qui est la joueuse est mon amour caché.
Tu es influencé par le saga of the Icelanders.
Ouais, oui.
Avec des événements fermiers, en fait.
Je continue toujours, saga of the Icelanders, j'en suis toujours content. Et dans ce jeu, en fait, dans ce supplément, les tirets qu'on nous rajoute, les relations, elles vont servir un petit peu comme dans Bliss Stage. Donc ça va quasiment être les mêmes termes, quoi, avec des notions de stress, d'intimité. En plein jeu, je vais choisir d'exposer, en fait, de stresser ma relation avec Gérard. Je vais vous rappeler à Gérard que nous avions vu il y a quelques temps. Mon mentor qui m'a tout appris pour gagner 3 dés achetés en plus, donc ce qui n'est pas négligeable dans le jeu, mais je gagne pas impunément en fait ces dés parce que pendant que je suis sur le champ de bataille, Gérard, tranquillement en train de lire Parry Turf dans les toilettes, se demande s'il ne devrait pas lâcher l'académie militaire pour ouvrir un rat.
Ouvrir un rat, tu veux une grosse souris ou...
Non, un rat avec des chevaux.
Ah, voilà.
Là, parce que sa passion hippique commence à prendre okay. le devant sur le fait de former des militaires à tuer des extraterrestres géants. Et donc, quand une relation est stressée, il n'y a que deux issues possibles. Soit elle se renforce, soit elle casse. Donc, lors d'une cellule ultérieure, il va donc falloir essayer de la renforcer, montrant à Gérard que c'est quand même grâce à lui que je poutre efficacement de l'extraterrestre, et qu'il y a des générations entières de cadets qui ont besoin de lui à l'académie. Et si je rate mon jet social, je vais me heurter à son mépris, car il ne voit plus en moi qu'un boucher. Et donc là, je perds ma relation. Mais je pourrais le faire changer d'avis dans un épisode suivant. Hein. Au contraire, même si une relation a cassé, en fait, dans la partie suivante, tu peux automatiquement restaurer la relation, sur des nouvelles bases éventuellement. Si je réussis, par contre, ma relation avec Gérard se renforce. Et au bout de 3 renforcements, eh ben, on va... changer l'étiquette de la relation, tu vois, c'est plus simplement mon mentor, c'est Gérard est comme un père pour moi.
C'était pas le fouet dans Bliss Stage déjà,
si,
le Gérard.
Si, mais bah, si, justement, c'est pour ça que je le remets en situation là. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là où on a changé, la relation a vraiment grimpé d'un cran et j'ai une deuxième case de stress. C'est-à-dire que maintenant, je peux gagner 2 fois des bonus en invoquant Gérard avant qu'il commence à se dire dis donc, petit,
c'est
fini de m'invoquer là.
D'accord, très bien.
Voilà, dans l'ensemble, okay. Évidemment, on peut aussi acheter de nouvelles relations dans le jeu, etc. Mmh. Dans l'ensemble, ça me paraît foutrement simple, élégant ouais. Et complètement recyclable ailleurs. Quoi.
Ça a l'air plutôt rigolo, ouais, voilà. Si celui-là.
Là, oui, à choisir, c'est pas tout à fait les mêmes approches. Quoi. Bah, je dirais, sans être simulationniste technique, le deuxième est simulationniste du support anime, alors que le premier est vraiment ludiste des fouloirs, avec tout ce qu'il faut comme incitation pour aller poutrer, quoi.
Et des deux, lequel tu préfères
Alors, comme dit, à la première lecture de Remnants, hein, moi j'avais été pas mal emballé. Après, j'ai sombré dans pas mal de choses de très drama. Et du coup, j'aurais maintenant, j'ai découvert Mecha beaucoup plus tardivement, j'aurais plutôt tendance à jouer à Mecha.
D'accord, voilà. Okay. Ah oui, c'est juste l'approche après qui...
Ouais. Et même certainement le préféré à Bliss Stage, par exemple. Qu'on a testé en fait. Si Yannick maintenant se met à parler de Bliss Stage, etc., hein, c'est parce qu'il a fait une petite partie avec Steve J, tout ça, moi et puis Chad aussi. Voilà.
Ah ben je vois que voilà.
Ah oui, mais quand je vois comment ça se voit en
vous
dehors
avez
de l'émission.
Perverti notre Yannick, c'est un scandale.
Et donc, alors, qu'est-ce que ça a donné cette partie
À peu près ce que j'en avais pensé en fait. c'est-à-dire que j'avais quelques
mais
craintes.
C'est cool, justement ça.
Bah, c'était toujours le fameux, les difficultés, c'est obtenir un consensus à table, etc. Puis bon, il y avait 2-3 points de règle ou bon, voilà. Mais non, j'étais resté à peu près conforme à l'idée que je m'en étais faite, quoi.
D'accord. Avec les réserves éventuelles
ouais.
Qui vont avec.
Ouais.
Ok.
Avec de très bonnes choses, hein, mais bon, faut bien suivre le système, tout ce qui est indiqué dedans, et pas mal de petites subtilités.
Et donc là, tu testerais Mecha
ouais,
a priori.
Si je peux. Ouais, ça va pas être en top priorité sur ma playing list. Hein.
Oui.
Mais oui, si j'ai des joueurs pour, je sans hésiter, je le testerai. Quoi.
Je serais bien partant.
Pas pour du Bollywood.
Pas forcément les versions Bollywood, justement.
Non, je suis pas rentré dans les détails des settings Bollywood, mais t'as des trucs de fou. Hein. Je crois que t'as la version antique, genre des mechas dans l'Inde antique, etc.
si vous faites une version Bollywood, par contre, il faudra faire une vidéo.
Ah bah là, c'est obligé. Ouais, c'est obligé. Là, il faut...
bah oui.
L'actuel play, il sera en vidéo parce que j'aimerais bien voir les chorégraphies.
Et costumes.
Ouais, bah attends, c'est le minimum, je veux dire.
Voilà pour le moment. Et donc, reste combien
Eh bien, là, c'est terminé.
Voilà. Non, c'est fini.
On va faire une coupure.
Tu peux rentrer chez toi.
Non, maintenant, il y a la bulle de Cyril.
La bulle de Cyril, pour laquelle il faudrait peut-être prévoir un jingle à un moment.
La bulle de Cyril. J'en ai très envie. Faut que je discute de ça
avec des gens. Je sais pas si ça en vaut le coup. Enfin, bref. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de l'espace. On avait vu ensemble que c'était grand. Cette fois-ci, je voudrais vous parler du temps.
Quel résumé.
Ah ouais, et
c'était son introduction d'ailleurs.
Plus
de
exactement
la bulle,
du fait que nous sommes dans le futur. Nous sommes dans le futur actuellement, enfin, dans le passé pour Yannick et ceux qui nous suivent à une minute de décalage. Mais sinon, on est dans le futur. Et je vous avais parlé, je crois, de mon super-héros super communiste. Non.
Super communiste. Bah, je crois que tu
super
as
héros
déjà...
communiste.
Tout à fait. Ça oui, me dit voilà. Quelque chose.
Bah, imaginez qu'il arrive dans le monde d'aujourd'hui et qu'il voit un monde avec de moins en moins de travailleurs, un monde finalement où comment dire, on n'est pas important. Le drame des ouvriers, il y a un siècle, c'était d'être opprimé. Notre drame aujourd'hui, c'est d'être ignoré. On ne sert plus.
C'est vrai.
Le système n'a plus besoin de nous. Hein. Les bras humains ne sont plus aussi importants qu'avant. Même chose pour les cerveaux humains. Voilà, donc ça c'est le monde qui se présente à super communiste et je me mets au défi de détruire ce monde, de détruire votre vie, d'assassiner ce monde, enfin pas le monde, juste la société et tout ce qui va autour avec les technologies actuelles.
Rapprocher un tout petit peu ton micro.
Tu veux mettre les technologies actuelles au service du communisme
pour attends, on va y arriver, mais pas les usages. Le monde n'est pas encore entièrement connecté et tout, mais ça y arrive. Et avec les technologies actuelles, on peut déjà faire plein de choses. Il faut juste quelques petits branchements, appuyer sur des boutons et vous verrez, on va faire un assassinat collectif parfait. Bon, d'abord, il nous faut un mobile. Donc le mobile est toujours lié au pouvoir. Hein. Pour moi, il y a Edward Snowden là qui a fait. Qui nous a révélé plein de choses là, sur le complexe un peu militaro-espion. On peut imaginer plein de déclinaisons de la NSA. Hein. Il n'y a pas forcément que les Américains dans la vie ou même que les pouvoirs étatiques. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ont le mobile. Ensuite, l'opportunité, on l'a tous dans notre poche, c'est le téléphone et plus particulièrement la carte SIM. Donc avec bien sûr les fonctions de géolocalisation, l'historique des appels et tout ça qui peut être géré par la smart data.
Je suis sauvé, j'ai toujours pas de mobile.
Voilà, écoute, t'as un email quand même. Parce que tes emails aussi peuvent être classifiés, ordonnés, etc. par des machines. Même les déclarations anonymes que tu pourrais faire dans un espace public, que ce soit un forum ou même dans la rue, pourraient être enregistrées. Voilà.
Ou sur Radio Rollist.
C'est bien pour ça que je m'appelle Caliste.
Ce que tu regardes, quand peut-être tu utilises des moteurs de recherche, ça peut tout à fait être compilé, bien sûr. Voilà. Donc ça fait une grande masse de données. Bon, j'invente rien, vous le savez tous. On avance en plus vers un monde où on n'aura plus besoin du téléphone. Enfin, tout ça va disparaître dans le cloud. On sera
dans le cloud.
On sera suivi. Suivi en permanence, il n'y aura plus besoin de mettre un mot de passe, on sera connecté. De toute façon, la machine nous surveillera pour notre bien et on sera nous-mêmes d'ailleurs des acteurs de la machine. On portera en ce moment, comment dire, les news, c'est pas mal. Il y a pas mal de news sur la réalité virtuelle, genre de choses. Il y a Sony qui fait quelque chose avec sa PlayStation 4. Il y a Facebook qui vient d'acheter une société qui s'appelle Oculus Rift. Voilà, qui fait de la 3D. Il y a Google qui a depuis quelque temps déjà lancé ses Google Glass et qui parle de wearable Android aussi. Alors d'ailleurs, je vais vous lire un.
Aussi toutes les montres et autres.
J'ai lu un article il y a pas longtemps là qui parlait d'une vidéo pour Android Wear. Donc,
c'est un rapport avec Werewolf, l'édition 20e anniversaire.
Non, c'est Android comme système d'exploitation des jeux, objets connectés qu'on pourrait être amené à porter, donc une chemise connectée ou des lunettes connectées. Et donc, je vous lis, je vous traduis en direct. Donc, cette publicité nous montre des gens qui décident quand partir au travail, aller prendre le train ou nager dans l'océan. Parce que leur montre, contrôlée par une intelligence artificielle dans le ventre de quelques corporations distantes, leur indique que c'est l'heure de le faire. Donc maintenant, c'est vous l'interface et c'est Google qui est votre utilisateur. Le rôle a changé.
C'est faisable avec la Zorglonde aussi.
Avec
la Zorglonde.
La Zorglonde. Si, et Vivulgrose.
Et voilà.
D'accord.
Et Zod Mimixam. Enfin,
tout ça pour dire que toutes ces données peuvent être compilées pour faire des profils. Donc, nous, on a un profil de rôliste, je ne sais pas, ou on peut avoir un profil de terroriste aussi, bien sûr, ou un profil de militant démocratique. Et ces profils peuvent être utilisés pour sélectionner des cibles, donc toujours pour... Dans l'optique de détruire ce monde qui nous entoure. Ça peut commencer par des SMS d'avertissement. Hein, c'est ce qui est arrivé aux manifestants de Maïdan là, qui portaient un téléphone. Oui, ils ont reçu un SMS disant bah, « Vous êtes en train de manifester, vous êtes détecté ici, donc rentrez chez vous. » Et il y a des sociétés qui vendent...
Avec 6 juin, une photo de tes enfants qui vont à l'école.
Alors voilà, on peut brancher ça sur des listes, etc. Et passer au chantage familial... Ouais. Vider le compte en banque en disant à la banque de le vider, c'est tout simple.
Ouais. Ah oui, c'est Adopi, mais en mieux, quoi.
On peut, si on branche des listes sur d'autres listes, on peut faire plein de choses. Il y a des sociétés qui vendent des dispositifs, des stingrays, là, des tours qui servent justement à capter les informations de géolocalisation des portables. Voilà, et puis donc, si vraiment on est vraiment mécontent, on peut donc passer à l'étape finale qui est de tuer. Donc. Et donc ça, c'est l'arme. Hein. Vous avez parlé du mobile, le pouvoir, de l'opportunité, c'est la cible, notre identification, etc. Et l'arme, c'est le bras de la machine, donc c'est les drones. C'est le bras armé du système. Donc j'ai lu récemment le livre « La théorie du drone » Chamaillou.
Grégoire Chamaillou.
Voilà. Très intéressant, que je recommande à tout le monde. Et qui montre comment les drones, vous savez, ces machines volantes qui permettent à des opérateurs planqués au Nevada de tuer les méchants terroristes au Pakistan ou en Afghanistan ou en Somalie.
Bah, ou dans Mecca aussi, c'était drôle. Oui, les drones d'artillerie. Donc.
De toute façon, les drones, c'est comme les voitures, on va en voir partout très vite. Ça s'apparente un peu à la brigade pré-crime de Minority Report, parce qu'en fait... comme ils tuent de loin et tout, les gens ne sont pas en train de combattre. Donc, il faut les tuer avant qu'ils ne posent la bombe, en fait. Donc, sur la base des profils qu'on dresse, avec, bien sûr, leur comportement, le fait qu'ils soient dans une zone connue pour abriter des terroristes, ou qu'ils...
Le fait qu'ils aient l'air d'avoir peur, c'est suspect.
C'est des barbus, donc peut-être... on peut... Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des meurtres à distance pour éliminer les ennemis de la machine sans s'arrêter avec, parce que une fois qu'on a une arme, et c'est le problème du complexe militaro-industriel, il faut s'en servir, il faut justifier un peu son existence. Du coup, qui tuer, c'est ça le problème, parce qu'en fait ces gens qu'on va tuer sont pas forcément des terroristes en réalité, c'est peut-être juste des gens locaux ou des frères de quelqu'un qui effectivement était militant. Ce qui se passe, c'est que les autorités américaines, par exemple, telles que le décrit Chamaillou dans son livre, peuvent essayer de tuer des individus spécifiques à partir de leur carte SIM. Donc d'ailleurs, parfois, ils tuent quelqu'un d'autre, mais voilà, c'était pas le bon téléphone, ou la personne avait prêté son téléphone, je ne sais pas. Et ensuite, en fonction des appels téléphoniques passés, peuvent essayer d'abattre les autres branches de la conspiration, donc de tuer les personnes qui ont reçu ou émis un appel vers la première cible. Donc ça peut s'étendre comme ça. Faut pas se limiter, c'est pas du tout anti-américain ce que je dis, hein, faut voir un peu en grand
le tableau au général.
Voilà, on peut imaginer, alors déjà le problème des drones, c'est que ça va se répandre, donc bien, et ça veut dire que on ne pourra plus dire « Ah, c'est les Américains qui ont tué Bidule ». Ça pourrait être des assassinats anonymes. On ne sait pas qui pourrait tuer. C'est une démocratisation de l'assassinat qui se profile. Bien sûr, pour savoir qui a tué, il faudra voir à qui profile le crime. Du coup, d'ailleurs, pour brouiller ça, il faudra faire des assassinats de diversion, histoire de... voilà. Enfin, bref. Donc, on peut aller très loin. Et je vais vous lire juste un extrait de Wikipédia. Je me souviens avoir lu, il y a, je sais pas, 20 ans, une nouvelle de Dino Buzzati dans le recueil Le Cas.
Oui. Très bien.
Alors, je me souviens plus du nom de la nouvelle, mais j'ai lu ça sur Wikipédia, j'ai lu le résumé. Je vous le lis. Fatigué des querelles humaines, le Père éternel décide de donner une bonne leçon aux hommes. Semaine après semaine, chaque mardi à minuit, les grands de ce monde succombent étrangement. On remarque rapidement qu'à chaque fois, c'est l'homme le plus puissant du monde à ce moment qui meurt. On constate alors une volonté de devenir de moins en moins puissant, de perdre toutes les guerres en donnant l'avantage à l'adversaire, de gouverner en collégialité, ce qui conduit à une harmonie totale dans le monde. Dans cette nouvelle, le président français Charles de Gaulle est le seul dirigeant à être épargné par Dieu. Donc à chaque fois, il fait un discours « oui, je suis prêt à… enfin, » très digne, enfin, voilà, mais donc… Son ego boursouflé en prend un coup. Donc, tout ça pour dire qu'on pourrait imaginer, puisque tout est classé, etc., on pourrait imaginer aussi que, classement Forbes des plus riches, paf, je suis un groupuscule terroriste, bon, je commence par tuer Bill Gates, ensuite Carlos Slim, je ne sais plus quel est le classement, et puis je descends comme ça en bas, je pense qu'il y aurait beaucoup de répartition de la richesse. On pourrait imaginer une tuerie des hommes les plus influents, avec un truc comme les classements la clout ou les trucs comme ça.
Mais ça signifie que le premier mec que tu tues qui a un enfant en bas âge, celui-ci se retrouve techniquement à la tête d'une fortune colossale, et donc il devra être abattu aussi.
Oui, non, mais on ne fait pas de sentiments, c'est des machines, on rappelle. Tu
programmes l'ADN.
Tu programmes le logiciel. Ensuite, les drones, bien sûr, seront indépendants, parce qu'ils pourront voler en permanence, il n'y a pas de raison.
À ce sujet, ils ne veulent pas encore tous, mais Cyril, est-ce que tu sais que pendant ton exposé, en fait, tu es suivi par un drone actuellement?
En tout cas, sur le chat.
Ah oui, oula, nous avons un redoutable drone nettoyeur.
Peux-tu ranger mon aspirateur, s'il te plaît?
En tout cas, tu as terrifié Volsung sur le chat dit qu'il va se réfugier dans une cave et quitter.
Alors, mais tu sais
faire
quoi
ses adieux à la technologie.
Il a raison, parce que ce que décrit dans son livre Chamayou, c'est que les gens dans ces régions qui sont les kill zones, là où on a la permission de tuer tous les hommes adultes filmés, du coup, y en a certains, ils n'ont pas quitté leur cabane depuis un an, parce qu'ils sont terrifiés, ils vivent dans la terreur en fait, parce qu'ils ne savent pas quand ils peuvent mourir, et puis il n'y a pas forcément de relation de cause à effet, je suis un criminel, je vais mourir.
Sur les drones, il y a une conférence TED d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Daniel Suarez, sur le sujet justement. Pour lui, son interprétation, c'est que la démocratisation des drones, c'est la fin de la démocratie. Et ça rejoint un peu ta bulle, donc c'est pour ça que j'en parle. TED, c'est donc un site qui publie des conférences de plein de gens, et donc Daniel Suarez, un auteur de science-fiction. Vous allez sur le site de TED, vous tapez drone et vous tomberez très probablement sur cette conférence de Daniel Suarez qui s'appelle La décision de tuer ne devrait pas appartenir à un robot. Voilà, c'était pour juste la petite.
Alors actuellement, pour être honnête, je crois que ça appartient pas encore à un robot, puisqu'il y a des opérateurs, mais on y arrive très très vite là. Tout ça pour dire que, pour reprendre un peu ce que disait le fils de Lino Ventura dans L'aventure c'est l'aventure, le capitalisme c'est fini. Bon, ça c'est si on tue avec le classement des plus riches. Ou alors, si on tue avec un classement d'influence, le charisme c'est fini, ou la vie en société c'est fini. Si on tue en fonction du nombre de connexions sociales qu'on a, imaginez, seuls les solitaires vont survivre. On lance les machines, elles vont faire le boulot. Donc c'est le triomphe de l'anarcho-nihilisme. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas que le danger, bien sûr, orwellien, le pouvoir qui va s'imposer, etc. Comme tu le dis, c'est une source de scénario inépuisable pour. Mais on est dans le futur, on est dans le futur cyberpunk.
Eh ben, j'ai une question éditoriale. Dans quelle mesure peut-on rapprocher la bulle de Cyril du jeu de rôle?
Il vient de le dire.
Non mais justement, est-ce qu'on peut, est-ce que moi je peux dire, ça me fait penser à un jeu de rôle qui. Ou est-ce qu'on reste dans une bulle un peu?
Non
de...
mais vas-y, il nous reste encore quelques minutes, tu peux tout à fait dire quelque chose.
En fait, le texte que tu as lu de Dino Buzzati m'a rappelé un jeu que j'ai feuilleté il y a pas longtemps qui s'appelle Curse of Darkness, et qui part du principe que si quelqu'un avait le pouvoir d'être le dieu, en gros, et on sait pas trop comment, il récupère ce pouvoir et il arrive en gros à exterminer tout ce qui représente. Tout ce qui est lié à de la religion, à du pouvoir, à du contrôle des autres, pour réduire en fait les gens à des groupes sociaux isolés les uns des autres, dans des poches de ténèbres. Et de mémoire, en fait, quand tu... Je l'ai survolé. Hein. Quand tu veux sortir de ton petit village qui est enfermé dans les ténèbres, tu peux tout à fait, en fait, en passant dans les ténèbres, tu peux retourner à n'importe quel endroit que tu connais. Et donc, du coup, les adultes au début se rappellent encore des endroits, etc. Donc, ils peuvent déchirer les ténèbres et partir en fait vers ces endroits-là. Et, mais leurs enfants, les nouvelles générations, vont avoir un autre problème parce que ça les incite en fait à emmener leurs enfants avec eux, à leur faire découvrir d'autres endroits, d'autres cultures, etc. Parce que sinon, eux-mêmes vont toujours rester enfermés dans leur propre village sans pouvoir jamais en sortir quand les adultes sont morts. Et alors, il y a différentes notions, parce qu'il y a des espèces de créatures, quand même, des ténèbres qui sont dangereuses, etc. Et un système visiblement assez simple dans le jeu qui ne permet que deux options, je crois, qui sont en gros maudire les ténèbres, d'où le nom du jeu, Curse of Darkness, ou alors allumer une bougie. Et alors, bon, j'ai rien compris au système, donc j'ai pas cherché très. Oui, mais moi, il y a des trucs qui me tombent des mains, comme ça, vraiment. Mais c'est, bon, c'est pas nécessairement inintéressant, mais voilà, le postulat de base, c'était ça. Si quelqu'un avait eu le pouvoir, justement, de se dire, merde, comment arrêter toutes les guerres, etc. Et justement, il détruit toutes les structures de pouvoir, toutes les choses qui. Donne à quelqu'un une emprise sur les autres, quoi. Voilà. D'accord. Mais de manière assez
intéressant radicale. Intéressant, ça a l'air rigolo.
Ouais, je
sais pas si c'est le
l'idée,
mot, mais...
l'idée est intéressante.
Ou
en
tueur anonyme, il y a aussi l'anti-héros, enfin le méchant de Death Note.
Oui, mais c'est vrai que j'y ai pensé aussi tout à l'heure, effectivement. Coup, la Death Note qui arrive comme ça, et après,
mais
c'est...
Ce qui est intéressant avec...
mais là, c'est un choix humain,
l'actualité,
donc ça peut être n'importe quoi.
C'est qu'on a vu que les technologies sont déjà abusées, de toute façon, par la NSA, etc. Enfin, il y a déjà... on est déjà en train de...
J'ai appris par un ami qui travaille dans la... Un ami rôliste qui travaille dans le domaine de la neurochirurgie et des choses comme ça. Et qui m'a dit que, par exemple, il y a des éléments métalliques qui sont implantés dans le cerveau des gens, notamment pour la maladie de Parkinson, etc., ou des trucs pour le cœur. Et en fait, ce sont des trucs dont on peut régler le niveau d'électricité qui passe parce que ça modifie le comportement. Psst. Et voilà, exactement. Et en fait, il n'y a pas de système de sécurisation de ce type de flux, en fait.
C'est comme tous les fantasmes autour des assassinats par radio sur les pacemakers.
Ouais, voilà. mais c'est complètement faisable, en fait.
Ça, c'est marrant, ça, parce que justement, j'avais une anecdote que j'ai entendue dans la semaine sur un pacemaker ou une sorte d'appareil comme ça.
Que
ou...
tu as trouvé par terre.
Non, mais a priori, sur un truc avec des... une opération ou quelque chose comme ça qui avait dû ouvrir le truc, et tu voyais a priori vraiment le pacemaker qui avait l'air d'envoyer un peu trop de jus, quoi.
Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, mais de Nexus, le roman, ça vous dit quelque chose ou pas?
Oui.
C'est un roman, c'est une trilogie, je crois, mais il y a que deux parus.
Il nous reste très peu de temps.
Je vais être rapide. Alors, en gros, c'est un système d'exploitation de nano-machines qui communiquent par radio dans le cerveau. Et donc, c'est une interface cerveau-ordinateur.
Okay.
Et bien sûr, du coup, les gens mettent des backdoors dedans, le gouvernement essaye d'avoir la backdoor. Voilà.
Ok, très bien. Bon, on mettra les références des trucs dont on a parlé.
Il va falloir qu'on s'en rappelle.
Quel est le système d'exploitation?
On s'en souviendra forcément.
Non, tu sais ce qu'on fait. On exploite. Yannick, tu nous...
Ah, Yannick n'est plus là.
Toi qui ne fais rien.
Oh, c'est scandaleux.
Ah là là là.
On peut pas. Non, c'est scandaleux. Non, Yannick, là, vraiment, tu nous as lâchés.
Ouais.
Salaud.
Bon, il faut qu'on fasse une petite pause et nous allons manger. Et on revient tout de suite après.
À tout de suite.